Chapitre 17. Hector Mancel parle. Confortablement assis dans un fauteuil de cuir, face à M. Lamartille et à ses collaborateurs, Hector Mancel, en pesant chaque mot, commença ainsi. Lorsque le 7 juin, à 8 h du matin, je reçus le coup de téléphone m'annonçant qu'une artiste du nom de Suzy Pommier venait d'être trouvée morte, étranglée dans son bain, je ne compris pas tout de suite l'importance de cette affaire. Je crus qu'il s'agissait d'un banal règlement de compte, comme il s'en produit quotidiennement dans le monde de la pègre. Néanmoins, je tins à prévenir, comme j'en avais le devoir, mon chef, le commissaire Pigé. À ce moment, le jeune inspecteur se tourna vers ce dernier. « Mais vous n'étiez pas là. »« Comment cela se fait-il ? » observa M. Lamartille avec sévérité. « En effet, répondit Pigé, je suis arrivé 5 minutes peut-être après votre départ. » Je demandais donc, continua Hector Mancel, à mon collègue Tabouret de m'accompagner. 10 minutes après, nous étions sur les lieux du crime. Je commençai aussitôt mon enquête. La victime était étendue, les genoux ramenés presque à la hauteur de son menton, au fond de sa baignoire. Je constatai alors, et ce fut la première observation importante que je fis, que le niveau de l'eau avait baissé depuis le moment où le crime avait été commis. On apercevait nettement, au-dessus de la surface de l'eau, sur la paroi intérieure de la baignoire, une bande mate sans reflet, contrastante avec le haut, qui, lui, n'avait pas été mouillé. Cela me parut étrange. Je voulus pourtant en avoir le cœur net. Je fis une marque à l'encre. Un quart d'heure après, je constatai que l'eau avait baissé de quelques millimètres. J'examinai attentivement le système d'écoulement pour me rendre compte si cette fuite provenait d'un mauvais fonctionnement de l'appareil ou d'une cause accidentelle. Et je m'aperçus que ce qui l'occasionnait, c'était une mèche de cheveux de la victime dont la tête reposait justement à côté de la bouche d'écoulement. Cette mèche était coincée sous le clapet servant à fermer cette bouche. J'en conclus donc que le cadavre de la malheureuse artiste avait été porté dans la baignoire alors que cette dernière était vide. L'assassin avait actionné ensuite le clapet sans se rendre compte qu'une mèche de cheveux en empêchait la fermeture complète. Puis il avait fait couler l'eau. À première vue, ces détails pouvaient paraître sans importance. Pourtant, quel intérêt aurait eu l'assassin à ce que le corps de sa victime étranglée fût retrouvé dans son bain plutôt que sur son lit? Pourquoi le criminel s'était-il donné le mal de faire cette mise en scène? Les traces de strangulation étaient trop visibles pour qu'il pût s'imaginer un instant que la mort de Suzy Pommier pourrait être imputée à un accident. Je continuai donc mes recherches. À part une combinaison dont une partie avait dû tremper dans la baignoire, sans doute parce qu'en portant le corps de sa victime, l'assassin l'avait entraîné sans s'en apercevoir, rien de particulier ne me frappa à première vue. Pourtant, à ce moment, mon attention fut attirée par quelques petites boulettes de papier qui se trouvaient dans un cendrier. Je les dépliai soigneusement. C'étaient des timbres-poste de 5 centimes. Détail étrange, ils n'avaient pas été utilisés. Comment se faisait-il que ces timbres, dont personne n'a l'usage, se trouvaient dans un cendrier? J'allais en avoir l'explication plus tard. Je continuai donc d'observer les lieux du crime avec l'espoir qu'un objet plus personnel se présenterait à mes yeux. Mais ce fut en vain. Je commençais à me désespérer lorsque je remarquai sur un guéridon une petite photographie, celle d'une fillette de 3 ans. Je tâchais de savoir si c'était une enfant de l'artiste. Mais personne ne la connaissait. Bien que ce fût étrange, je n'attachais pas une plus grande importance à cette photographie. J'examinai ensuite les papiers qui se trouvaient dans le secrétaire. Il y avait de nombreuses lettres d'anciens amants de l'artiste. Le coupable était-il un de ces hommes? Il était difficile de l'affirmer. Parmi ces lettres, il en était une cependant qui me surprit. Elle émanait justement d'un certain M. Escan. Elle avait été mise à la poste de Strasbourg il y avait 2 ans. Dans cette lettre, M. Escan annonçait à Suzy Pommier qu'il devait rompre, qu'il ne l'aimait plus, que ses sentiments les plus forts, comme toutes les choses humaines, étaient destinés à périr. Évidemment, c'était peu compromettant, mais il ne fallait rien négliger. Je dois vous dire, messieurs, qu'à ce moment, j'étais encore à 100 lieues de soupçonner la vérité. Je croyais que le coupable ne pouvait être que Pierre Nervray. Je l'interrogeai, mais j'eus vite la certitude qu'il était innocent. Enfin, au cours de mes démarches de la matinée, j'appris un fait qui me bouleversa. La veille, un film où Suzy jouait le rôle d'une femme assassinée dans des conditions identiques à celles où elle avait trouvé la mort, avait été présenté. Je songeai alors à la mise en scène de la baignoire et j'eus la conviction que le coupable était le même que celui du film. « Donna, vous voulez dire ?»« Non, pas Donna, mais le personnage joué par Donna. » Je me rendis donc à Asnières. Or, le hasard fit que je rencontrai, dans le bureau même du metteur en scène, Joachim Escan. Il venait demander d'acheter toutes les copies de ce film. Les raisons qu'il donnait à cet étrange achat étaient et son immense amour pour Suzy Pommier et le désir qu'il avait de ne pas permettre au public d'assister à une scène de meurtre rendue intolérable par ce qui avait suivi. Je ne pus m'empêcher de songer qu'un tel désir était pour le moins bizarre de la part d'un homme qui avait déclaré dans une lettre que les sentiments les plus élevés étaient, comme toutes les choses humaines, périssables. Je le questionnai sans en avoir l'air. Puis j'attendis son départ pour demander à Rivière de me faire assister à une projection du fameux film. À ce moment, je compris une partie de la vérité. Je ne sais si vous avez vu ce film, mais il est plusieurs passages singuliers. Je fus frappé, en effet, par la scène dite des décorations. Vous vous la rappelez, Donna, après s'être entendu dire qu'il était un lâche, s'absente et reparaît quelques instants après avec ses décorations. Il étrangle Suzy, mais cette dernière, en se débattant, lui arrache ses décorations. Ne trouvez-vous pas cela singulier ? Dans un film qui se passe en 1932, ce geste bizarre, faux, invraisemblable, croyez-vous qu'une artiste aussi intelligente que Suzy Pommier l'eût commis s'il n'avait pas eu une raison particulière? Ne croyez-vous pas qu'il était plutôt la répétition d'un geste identique commis celui-ci dans des circonstances particulières? Supposez par exemple qu'un officier, en temps de guerre, étrangle une femme. Il serait alors tout à fait admissible que la femme, en se débattant, lui arrachât ses décorations. Un autre détail. Dans le film, Donna porte un monocle. Au cours de la lutte qu'il soutient avec sa future victime, le monocle tombe dans le bain. Sans retrousser ses manches, il le cherche une fois son crime commis. Ceci est vraisemblable, mais ce qui est encore inadmissible, c'est la manière dont il usait de ce monocle. Il était visible qu'il en était embarrassé. Cela ne pouvait échapper à personne. À chaque instant, il portait sa main à ce monocle pour l'empêcher de tomber. Et pourtant, on a préféré conserver le ridicule de cette gêne à la solution bien simple qui consistait à faire porter par Donna un binocle. Il y a là une raison. Il fallait que le meurtrier eût son monocle. Ce fut donc à la suite de ce spectacle que la nécessité de me rendre à Strasbourg m'apparut. Je ne devais pas regretter ce voyage. Je me rendis donc à la préfecture de police de cette ville et, tenez-vous bien, messieurs, je demandai qu'on recherchât dans les archives de la police si, pendant la guerre, une femme n'avait pas été assassinée dans son bain. Les recherches furent longues. Finalement, on découvrit qu'en effet, une certaine Frida Maus avait été étranglée en 1917 dans un appartement meublé, exactement dans les circonstances que j'avais supposées. L'assassin n'avait jamais été découvert. Tout ce qu'on savait, c'est que la veille de ce crime, la jeune femme avait été vue en compagnie d'un officier allemand. Sur les lieux du crime, on avait retrouvé un médaillon dans lequel se trouvait une photographie de fillette. Je me fis remettre ce médaillon. La fillette était la même que celle que représentait la photographie que j'avais remarquée chez Suzy Pommier. Tout devenait de plus en plus clair pour moi. Pour une raison que j'ignorais, Suzy Pommier, à qui Joachim Escan avait sans doute raconté jadis, par besoin de se confesser, le crime dont il était l'auteur, avait reconstitué l'assassinat au cinéma et, pour pouvoir introduire les détails véritables, avait pris comme partenaire un acteur sans valeur et qui, justement pour cette raison, était assez obéissant pour faire ce qu'elle lui demandait. Puis, quelques jours avant la première représentation, elle envoyait une invitation à Joachim Escan, qui ne se doutait de rien. Agissait-elle pour se venger d'avoir été abandonnée, ou bien pour faire chanter le riche industriel? Je l'ignorais encore. Mais j'étais sur la bonne voie. Il ne me restait plus qu'à prouver qu'il était le coupable. Il se rendit donc à l'invitation. Pourtant, il écrivait dans l'après-midi une carte-lettre au père de Suzy Pommier pour lui dire qu'il n'était pas certain de venir. Il l'écrivit au bureau de poste de la place Victor Hugo. Il paya cette carte-lettre avec une pièce de 50 centimes et une autre de 25 centimes. L'employé, n'ayant pas la monnaie, lui rendit 4 timbres de 5 centimes. Vous devinez la suite. Il retrouve Suzy Pommier après le spectacle. Il lui demande ce que cela signifie. Il tremble qu'on ne le fasse chanter. Suzy lui assure que ce n'est pas son intention. Il demande qu'elle lui rende ses lettres. Elle accepte. Mais, arrivé rue de l'université, une dispute éclate. Escamp perd la tête. Il étrangle Suzy. Puis, affolé, il ne songe plus qu'à éloigner de lui les soupçons. Le meilleur moyen n'est-il pas de faire croire au crime d'un maniaque, d'un être faible, influencé par le film? Aussi, Escamp porte-t-il le corps de sa victime dans la baignoire? Il ne fait aucun doute que Joachim Escamp, coupable d'un crime ancien, a tué par peur d'être découvert. Maintenant, il s'agit de déterminer dans cette affaire le rôle du père de Suzy Pommier. Le lendemain du crime, il se rendait chez Escamp. Pourquoi? Vous allez le savoir. C'est lui qui avait poussé sa fille à jouer la scène de l'ancienne victime de l'officier allemand. Elle lui avait un jour tout raconté. En homme peu scrupuleux, il avait tout de suite compris ce qu'il pouvait tirer d'un tel aveu. L'idée de se servir de sa fille afin de faire chanter l'industriel lui vint à l'esprit. Le lendemain du crime, malgré sa douleur, il ne voulut pas perdre le bénéfice de sa lâcheté. Il ne se doutait pas que l'homme à qui il venait demander de l'argent pour prix de son silence était l'assassin de sa fille. Pourtant, il ne devait pas tarder à tout apprendre. Alors qu'il écoutait le discours du président de la Confédération des spectacles, Escamp, soudain conscient de l'horreur de son acte, ne put résister au besoin d'avouer la vérité au père de sa victime. Ce dernier eut alors brusquement conscience du rôle misérable qu'il jouait. Par cupidité, ne s'était-il pas fait en quelque sorte le complice d'Escamp? Qui croirait qu'il ignorait la vérité? Il perdit la tête. Vous connaissez la suite. Je n'entreprendrai pas de vous narrer. Une détonation venant de la chambre voisine interrompit Hector Mancel. Presque en même temps, la porte s'ouvrit, livrant passage à un policier affolé. Il s'est tué! Il s'est tué! Cria ce dernier. Monsieur Lamartille, le commissaire Piget, Vigneron, Tabouret, Hector Mancel se précipitèrent dans la pièce contiguë. Étendu de tout son long sur le sol, la face contre terre, Joachim Escamp avait cessé de vivre. Les policiers se précipitèrent sur son corps, le soulevèrent, mais ils durent vite se rendre à l'évidence. De la tempe, un mince filet de sang coulait sur la joue du criminel. Enfin, Gruot, comment se fait-il que vous ne l'ayez pas empêché? Demanda avec émotion M. Lamartille. Cela a duré une seconde. Il paraissait au contraire très gai. Il y a quelques minutes, il m'avait demandé une feuille de papier blanc, ayant, disait-il, une lettre urgente à écrire. Je la lui ai donnée. Il a pris son porte-plume réservoir et pendant quelques minutes, il a écrit. Ensuite, il s'est levé, m'a demandé comment je m'appelais. Gruot, lui ai-je répondu. Il est resté un instant silencieux. « Avez-vous des enfants ?» m'a-t-il demandé. Je lui ai fait signe que non, bien que j'en ai 7, ne voulant pas entamer une conversation avec lui. Il s'est mis alors à marcher de long en large. Soudain, il s'est arrêté à quelques pas de moi. « Vous êtes un brave homme, Gruot » m'a-t-il dit. Et aussitôt après, avant même que j'aie eu le temps de faire un geste, il a tiré un revolver de sa poche, l'a appliqué sur sa tempe. Une détonation, et il tombait juste devant moi comme une masse. « Et où est la lettre qu'il a écrite ?» demandèrent en même temps 3 des policiers. « Là, sur la table. »« Donnez-la-moi, » dit le directeur. On la lui tendit. Il la lut d'un trait, puis murmura. « Extraordinaire !»« Pourquoi ?» demanda Hector Mancel. « Lisez-la, elle vous concerne un peu, d'ailleurs. » L'inspecteur l'a pris et lut ce qui suit. Monsieur le directeur de la police judiciaire. Vous n'ignorez déjà plus, en ce moment, l'homme misérable que je suis. Je ne mérite plus de vivre. Dans un instant, justice sera faite. Pourtant, avant de disparaître pour toujours, je veux vous dire l'immense reconnaissance que je dois à votre subordonné, le jeune inspecteur Hector Mancel. Sans lui, je n'aurais jamais trouvé la force de me punir comme je le mérite. Sans lui, je continuerais à jouir de l'estime générale, moi qui ai tué deux fois. Sans lui, je continuerais de vivre avec mon remords, un éternel remords. Je ne me sens pas digne de le remercier directement. C'est pour cela que je m'adresse à vous, qui êtes son chef. Dites-lui que je lui dois une reconnaissance infinie. C'est la première chose que je vous demande. Il en est encore une autre. J'ai une fille qui a aujourd'hui 18 ans. Je vous demande à genoux de lui laisser ignorer, toujours ignorer, ce qu'a été son père. C'est tout. Merci, merci de tout mon cœur. Quant à la fortune que je laisse, je désire qu'elle soit partagée en deux parts égales qui seront remises, l'une à ma fille, l'autre à l'inspecteur Hector Mancel. C'est ma dernière volonté. Adieu. Joachim Escamp. À ce moment, un brouhaha indescriptible se fit entendre. Des journalistes venaient de forcer la consigne et pénétraient dans le bureau du commissaire Piget. Ils demandaient des renseignements, ils voulaient savoir. Dans le tumulte, un homme pourtant demeurait calme. C'était Hector Mancel. Il avait allumé la dernière cigarette d'un paquet acheté à 3 heures de l'après-midi. Il était pâle. Déjà, le bruit de sa richesse s'était répandu. De toutes parts, il entendait son nom prononcé par des inconnus. À ce moment, M. Lamartille s'approcha de lui. « Vous voilà riche à présent, mon ami, riche et glorieux. N'est-ce pas le plus grand bonheur auquel un homme peut atteindre ?»« Pourquoi riche ?» demanda en souriant le jeune inspecteur. « Vous avez lu la lettre ? Vous ne vous imaginez pas, je suppose, que je vais garder cet argent ? Et qu'allez-vous en faire alors ?» Le donner à l'amicale des gardiens de la paix. Puis, sans attendre les félicitations de son chef, Hector Mancel prit son ami tabouret par le bras et, l'entraînant vers la galerie, lui dit « Allons prendre un apéritif, place Saint-Michel.